d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Alors aujourd'hui, pas d'invités, mais une multitude de chroniques. On va vous parler d'actualité pour de vrai, c'est-à-dire de choses qui concernent les gens, et on va essayer de parler le moins de politique. Alors justement, pour prendre un peu de recul, il paraît que le candidat qui a gagné est plutôt pour l'accord avec le Canada, le fameux CETA dont nous parle Gaël depuis longtemps. Donc Gaël, oui.
Vous avez déjà parlé du CETA d'ailleurs.
Je ne sais plus, mais enfin, si, on sait bien que tu en parles à chaque fois. Mais donc tu as perdu, le candidat du CETA a gagné, c'est ça?
Non, c'est parce qu'il aime Lynn Renault, c'est la petite maison au Canada.
Alors le CETA, donc, pour ceux qui n'ont pas écouté Mode d'emploi depuis un certain temps, c'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui a été signé en novembre et ratifié par le Parlement européen en février. Cet accord prévoit assez classiquement d'abaisser les droits de douane, de déréguler les marchés publics, d'ouvrir le maximum de services à la concurrence. Bref, ça nous promet un beau paradis thatchérien. Et c'est pas tout, il prévoit un pseudo-tribunal international composé d'avocats d'affaires pour juger des différends entre des investisseurs et des États. C'est-à-dire que dès qu'une entreprise étrangère estimerait qu'une décision publique réduit ses profits, elle pourrait porter plainte. Enfin, le CETA programme ce qu'on appelle une harmonisation réglementaire entre les États. Ça consiste à faire converger les réglementations nationales d'une manière qui soit propice aux affaires. Alors, en général, propice aux affaires, ça veut dire pas trop de contraintes écologiques, pas trop de contraintes sociales. Bon, vous voyez le genre. Alors, la société civile s'est mobilisée contre le CETA ces dernières années, en Europe et au Canada. Mais ça n'a pas empêché la ratification du CETA par le Parlement européen en février. Et le Sénat canadien vient de ratifier le traité lui aussi.
Bah alors, c'est foutu, quoi.
Que nenni, mon cher Pierre. Au Canada, il reste une étape de ratification au niveau provincial, et le Québec est très mobilisé contre le CETA. Et en Europe, il faut que le traité soit ratifié par 38 parlements nationaux ou régionaux, et ça va se faire entre maintenant et fin 2018. Il suffit qu'un parlement vote contre le CETA pour casser la baraque. Alors je voudrais rassurer tous les investisseurs qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, 90% du traité peut déjà s'appliquer de manière provisoire. Voilà, c'est une manière un peu particulière de concevoir la démocratie. On applique le traité avant qu'il ait été ratifié.
C'est le sens de l'histoire.
Voilà. Alors, on est en marche, on ne l'est pas. Hein.
Alors pour préparer les mobilisations à venir, il y a eu cette semaine une réunion du réseau S2B à Bruxelles. S2B, ça veut dire Seattle to Brussels. C'est un réseau altermondialiste qui rassemble toutes les organisations européennes qui sont engagées contre les traités de libre-échange. Et donc une centaine de participants sont venus de 25 pays pour débattre de leur stratégie pour combattre le CETA. Et malgré la ratification provisoire du CETA, le bilan que S2B fait de son action est assez optimiste, puisque d'une part, on a construit un mouvement européen qui est à la fois large et coordonné, c'est-à-dire qu'il rassemble des mouvements paysans, syndicaux, associatifs, des ONG pour l'environnement. Et ce mouvement réunit à la fois des experts capables de décortiquer les textes du CETA et des activistes de terrain. Et deuxième sujet de satisfaction, c'est qu'on a réussi à faire du CETA un sujet public, alors que c'est hyper technique et que le traité fait plus de 1000 pages, sans compter les annexes. Une autre bonne nouvelle est arrivée mercredi pendant la réunion de S2B. En 2014, la Commission européenne avait refusé d'enregistrer une initiative citoyenne contre le CETA. Alors, le principe d'une initiative citoyenne européenne, c'est que si elle rassemble plus de 1 million de signatures, la Commission doit étudier la demande. Et à cause de ce refus d'enregistrement de la Commission, l'initiative citoyenne finalement s'était transformée en simple pétition qui avait quand même recueilli 3 millions de signatures, donc largement plus que les 1 million requis. Et mercredi, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le refus d'enregistrement de la Commission. Malheureusement, ça ne remet pas en cause la signature du traité, mais ça renforce énormément la légitimité du mouvement anti-CETA.
C'est marrant, c'est tellement moderne, ça rappelle les lits de justice à l'époque de Louis XV.
Et une autre initiative a eu un grand succès, ce sont les zones hors CETA. De nombreuses communes et régions se sont déclarées hors CETA, alors c'est purement symbolique, mais ça montre déjà que les élus locaux sont sensibilisés et qu'ils s'inquiètent des conséquences concrètes du CETA sur leur territoire, notamment en matière de marché public. Par exemple, le CETA pourrait interdire de privilégier les petits producteurs locaux dans la commande publique. Et cette sensibilisation des élus locaux pourrait peser au moment du vote des parlements nationaux. Alors maintenant, il va falloir agir pour que notre future Assemblée nationale ne ratifie pas le CETA. Ça veut dire, premièrement, bien voter. Je vous fais pas de dessin, vous voyez à peu près pour qui. Mais aussi interpeller les candidats, y compris ceux pour qui vous ne voterez pas. Donc pour ça, vous allez harceler tous les candidats macronistes, PS, LR, etc., jusqu'à ce qu'ils s'enregistrent sur un site web qui s'appelle, donc le site web c'est www.legislative-ceta.fr. CETA c'est CETA. Et là, les députés, enfin les candidats députés, doivent indiquer clairement s'ils voteront pour ou contre le CETA.
À vos mails et à vos bulletins, encore une fois, vu qu'on fait que ça en ce moment. Mais il y a d'autres gens qui votent. Il n'y a pas que nous. Par exemple, il y a eu des grandes élections législatives en Algérie.
Alors, je vais essayer de vous résumer. C'est très, très difficile. Élections démocratiques terminées. Résultat, comme d'habitude, le FLN gagne. Bouteflika est rentré au frigo.
Très bien. Un grand engouement populaire, je crois. Une participation, malgré les trucages des élections et le bourrage des urnes, il ne faut pas en parler, je crois, ils ont quand même réussi à avoir un taux de participation très bas. C'est impressionnant. Alors, la politique en France, c'est aussi étudier quand même un petit peu des statistiques, justement, issues de nos élections, Jean-Marc.
Oui, alors, évidemment, en période électorale et double période électorale cette année, on est abreuvé de chiffres, de sondages bidons tout le temps. Mais il y en a quand même des choses intéressantes qui côtoient des choses absolument hallucinantes. Chose intéressante, le sondage au lendemain de l'élection présidentielle, deuxième tour, 16% des électeurs qui ont voté pour Macron, 16%, ça fait pas lourd, ont voté pour son programme. Ça veut dire qu'il y a 84% de gens qui ont voté pour Macron sans trop savoir pourquoi. Et en tout cas,
parce
pas pour son
beau
programme. Ce qui pose peut-être un petit problème démocratique en France.
Il porte bien la cravate aussi. Oui.
Y a-t-il encore une démocratie? Alors, plus surprenant, beaucoup plus folklorique aussi, un sondage qui est tombé aujourd'hui. Ça fait moins de 24 heures que En Marche a présenté ses 400 et quelques candidats, qui sont pour la plupart inconnus. Donc, c'est très difficile de se faire une opinion sur des gens totalement inconnus. Mais il y a quand même un institut de sondage qui montre que 76% des Français sont satisfaits de ces candidats En Marche. N'y aurait-il pas un petit peu un problème, et ne serait-ce pas à mettre dans la rubrique les instituts de sondage se foutent de notre gueule? Peut-être.
Bah, ils se moquent pas de leurs clients, c'est déjà ça, quoi. Enfin...
Alors, autre chiffre trouvé, cette fois c'est une source directe, c'est pas des journalistes, c'est pas un institut de sondage, c'est sur le site de En Marche, En Marche qui se vante du bon déroulement de sa sélection des candidats, et il signale une statistique quand même assez intéressante. Moyenne du nombre de candidats à la candidature par circonscription chez En Marche, 34 candidats à la candidature. Ce qui, quand même, pose une question pour un parti qui est de gens qui sont censés ne pas faire de politique. Alors, soit ce sont des joyeux rêveurs qui vont être très efficaces, soit c'est vraiment un parti d'arrivistes. Et ça fait peur aussi. 34 candidats par siège, en moyenne. Et ils trouvent que c'est vachement bien.
On laisse un petit blanc. On continue sur le scrutin, et là tu veux nous parler non plus des nouveaux mouvements politiques, mais plutôt de ces partis que tu as envie d'appeler des partis zombies.
Oui, alors c'est peut-être l'un des enseignements des dernières élections, c'est que justement on arrive à avoir une vision de la politique en France qui s'atomise. On parle d'atomisation des Républicains, on parle d'atomisation du PS, on parle du PC qui se porte pas bien, et finalement peut-être que tout ça se résume à un film d'horreur. Vous avez tous déjà vu des films d'horreur, et l'un des classiques du genre est le film de zombies. Qu'est-ce que c'est qu'un zombie? C'est un cadavre qui, pour des raisons souvent irrationnelles, souvent aussi mystérieuse qu'irrationnelle, le cadavre sort de sa tombe avec ses copains, où il roupillait pourtant tranquillement, peinard. Et qu'est-ce qu'il fait, le zombie? Il va agresser, au ralenti, mais de façon extrêmement sauvage, des vivants qui n'avaient rien demandé et qui ne lui avaient rien fait.
Mais de quoi parles-tu?
Le zombie, justement, est con. Il fait du bruit. Donc on l'entend venir, c'est très con quand on veut bouffer des gens vivants et qu'on est mort, de faire du bruit et d'aller au ralenti pour les bouffer. Eh bien, le zombie est con. Mais le zombie est opiniâtre et résistant. On pourrait même dire résilient, c'est très à la mode. On lui tape dessus, eh bien, il se formalise pas. Il en redemande et il revient. Parce que sa seule raison d'être est de faire chier, de transformer des gens qui vont bien en zombies eux-mêmes. Bref, le zombie est dans la merde. et voudraient que les autres y soient aussi. Alors, si vous voyez un parallèle avec la politique française, moi je le vois. Vous avez reconnu dans cette description le Parti Socialiste et le Parti Communiste, peut-être même ELV, sous certains aspects, une série de crétins qui ont tout planté depuis des lustres, qui ont fait perdre la gauche à la présidentielle, les socialos et les verts en l'occurrence, en maintenant la candidature absurde du petit Benoît, et qui s'apprête à faire pareil aux législatives, aidés cette fois par les communistes qui, bien que morts depuis 20 ans au moins, bougent encore, vont diviser la gauche en présentant des candidats contre la France insoumise, qui est pourtant aujourd'hui clairement la seule dynamique à gauche. Ce qui risque fort de faire gagner des avatars de Macron, des LR ou du FN selon les circonscriptions. Mais on ne peut pas leur en vouloir, car les zombies, on le sait, nous l'avons déjà dit plus haut, ne brillent pas par leur QI.
Alors, je vais quand même demander un droit de réponse. Au nom des zombies, je vais essayer de défendre l'indéfendable. Et
attends, il y a la chronique d'après.
Donc après, sur les partis politiques, quand même, il y a une chose, on ne peut pas faire de politique sans parti. Mais simplement, d'ailleurs, parce que quand on fait de la politique...
Si, Macron est en train de le prouver.
Non, mais justement, j'y viens. Quand on fait de la politique, on a besoin de financement. Or, en France, il y a un financement de la vie politique. Et le financement de la vie politique, il est donné aux partis. Donc si maintenant, je prends le cas FIPC...
France Insoumise, PCF.
PCF. Le fond de la question est de savoir qui est-ce qui va récupérer les sous. C'est pour ça le forcing de Mélenchon, pour qu'il n'y ait des candidats communistes qu'à condition qu'ils aient accepté de signer la charte, avec comme condition, petit corollaire, petite chose mise dans le papier, qui dit que l'argent va aller à FI, et pas au PCF.
C'est pour ça que Hamon s'est maintenu pour avoir les sous, on sait.
Et maintenant, après...
Merci, on a Macron maintenant.
Après, concernant Hamon... Le raisonnement de Mélenchon, et moi j'ai voté Mélenchon, je soutiens Mélenchon, donc il n'y a pas de question là-dessus. Le raisonnement de Mélenchon était de dire, après les résultats, Hamon aurait dû abandonner pour qu'il n'y ait qu'une seule candidature à gauche. Le problème, c'est qu'à un moment, dans les sondages, Hamon était devant Mélenchon. Et qu'à ce moment-là, Hamon a eu exactement le même raisonnement. Et qu'est-ce qu'il a fait Mélenchon? Il a fait durer en attendant que les sondages lui donnent l'avantage. Donc, je ne suis pas en train de juger... de qui a raison dans cette affaire-là. Je dis simplement que tous les arguments que tu sors, on peut les retourner exactement dans le sens inverse.
Oui, France Insoumise sera peut-être le zombie des prochaines élections.
Sauf qu'il y a un parti nouveau et les autres qui sont anciens et qui ont tout pété. C'est la différence.
Vive le nouveau parti, à condition qu'il fasse ses preuves.
Merci Alexandre.
Alors on enchaîne sur un cadre d'école, hein, vu que Jean-Marc voulait enchaîner sur l'exemple du 18e arrondissement.
Alors, le 18e arrondissement, il y a trois circonscriptions dans le 18e. Le 18e arrondissement, c'est plus de 200 000 habitants quand même. Et c'est un arrondissement qui est très intéressant parce qu'il est complètement à gauche depuis plus de 25 ans, imprenable par la droite, normalement. D'ailleurs, Marine Le Pen a fait 9,5% au deuxième tour, ce qui doit être l'un des records nationaux dans des zones assez densément peuplées. Alors, malgré tout, la débilité des gauches, et notamment des zombies, risque de faire péter l'union des gauches et risque de mener au pouvoir, dans le 18e, un avatar de Macron, et on ne sait pas encore exactement quoi. Pour l'instant, il y a un gag. Dans le 18e, nous avons beaucoup de chance. Nous avons une candidate qui s'appelle Myriam El Khomri. Vous connaissez Myriam El Khomri,
oui.
C'est justement la loi du même nom, qui aurait pu aussi peut-être s'appeler la loi Macron. Alors, pour l'instant, Myriam El Khomri, qui avait fait des appels du pied, n'a pas été intronisée par En Marche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de candidat En Marche face à Myriam El Khomri. Peut-être est-ce le syndrome Manuel Valls. On ne sait pas. Alors, cette brave Myriam, avec ce beau CV ministériel, veut absolument la place. Alors, il faut savoir qu'elle a été élue par les socialistes locaux, très très fort. Elle a réussi à gagner de deux voix face à une débutante qui n'a même pas 30 ans et qui est inconnue de tout le monde et qui a failli avoir la place de candidate à la place d'El Khomri, qui à ce moment-là avait prévenu d'ailleurs, s'il n'avait pas la place, elle allait chez Macron. Sympa, non? Bon, alors, voilà pour El Khomri. On plante le décor. Face à elle, il y a un candidat de la France Insoumise, Paul Vanier, un enseignant de 31 ans. Là aussi, petite parenthèse, la presse ne parle que de la nouveauté chez Macron, il y a des jeunes que chez Macron. Mais il y en a aussi plein à la France Insoumise et il y a plein de nouveaux qui n'ont jamais été candidats et qui n'ont jamais été élus nulle part non plus. Alors, dans un monde logique, toutes les gauches devraient faire obstacle au symbole antisocial par excellence qu'est l'ancienne ministre du Travail. Eh bien non, il y aura peut-être des candidatures trotskistes. Figurez-vous que sur le 18e, il n'est pas impossible qu'il y en ait une, deux, voire trois. Super. Il y a un dissident socialiste. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire, mais bon. Et En Marche, c'est curieux. Donc, pour l'instant, rien. Pour remercier Myriam, on ne sait pas. Alors, le bazar ne s'arrête pas là. Parce qu'on aurait pu s'arrêter là. Eh ben non, le PC met en marche la machine à perdre. La moitié des adhérents du PC sont déjà partis à la France Insoumise dans le 18e parce que justement il y a Discord. Et il y a Discord autour de quoi ? Autour de quoi ? Autour d'une candidature. La candidature de Caroline De Haas. Caroline De Haas est une charmante militante féministe et qui s'est fait connaître en faisant la fameuse pétition contre la loi El Khomri, ce qui était une très bonne initiative qui a très bien fonctionné. Depuis, elle a les dents qui raillent le parquet. Et elle voudrait bien être députée. Et alors, pour être députée, elle s'est rapprochée d'abord du PS. Elle a fait un bout de chemin avec le PS. Ça n'a pas marché. Alors, elle est partie ailleurs. Elle s'est rapprochée du PC. Et elle a foutu la merde dans le 18e. Le PC est divisé en deux depuis son passage. Bon, ça ne marchait pas très bien. Elle a été voir les Verts. Donc, en l'espace de 3 mois, elle a changé 3 fois d'étiquette. Mais elle se présente pour nous. Pour nous et pour la gauche. Bref. Une parachutée qui a beaucoup de suite dans les idées. Cela pourrait faire rire, sauf que bah le problème, c'est qu'on risque d'avoir dans le 18e le syndrome Hamon. C'est-à-dire que pour quelques pourcents ridicules que va faire Caroline De Haas, probablement, eh bien, ça risque de faire perdre Paul Vanier et de laisser passer Myriam El Khomri. C'est pas bien joué, ça ?
Alors, on va résumer tout ça avec une chanson qui est parfaite. Denis Lefdup, Les Cadors.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Bonne d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et on reprend avec l'instant Macron, comme si on n'en avait pas déjà parlé. L'instant Macron, c'est parler de ce grand mouvement En Marche.
Alors oui, justement, on a vu beaucoup de gens En Marche qui sont très très divers, ils sont très très jolis, très très gentils, mais il ne faut pas discuter avec eux. Alors je peux vous résumer un peu la façon de procéder des gens de En Marche. Alors, consigne pour les gens de En Marche. Si on vous parle du programme de Macron, problème, il y a un demi-programme et la moitié qui existe, il ne faut pas en parler parce qu'elle est mauvaise. Alors répondez, nous, on n'est ni gauche ni droite. Si votre interlocuteur est un mauvais coucheur qui insiste, parce que ni gauche ni droite, ça ne lui suffit pas, il veut des idées, il veut un programme. Répondez que ce n'est pas la question, qu'il faut des jeunes et du renouvellement en politique. Et là, et parfois, il y a même des fâcheux qui insistent encore pour avoir des éléments de programme et des réponses. Alors, si votre interlocuteur insiste, échangez des arguments. Pour échanger des arguments, alors c'est grave. Ne cherchez pas à lui en opposer. D'abord, parce qu'il n'y en a pas. Parce que le programme est mauvais pour la partie qui existe. L'autre n'existe pas. Alors, il faut biaiser. Traitez-le de sectaire. Ça va plus vite et ça évite de répondre. Vous dites ni gauche ni droite, sectaire. Fin du débat.
On a compris, vous pouvez être marcheur. Alors si vous n'avez pas encore bien compris, on va vous le faire sous forme de sketch. On va vous glorifier Macron à la façon de Chevalier et Las Palais, c'est-à-dire Jean-Marc et Patrick.
Alors ça s'appelle la marche verte, parce qu'une des parties du programme, c'est l'écologie qui est très développée chez Macron. Ouais, t'as vu le programme de Macron pour l'écologie ?
Je croyais qu'il était pour le nucléaire.
Ouais, mais c'est pas le principal.
Et tu veux dire que pour le reste, il s'engage à respecter l'accord de Paris, la COP 21, la COP 22 et la COP 78?
Non, ça c'est has-been. Nous, on est des marcheurs, on est modernes. On fait rien comme avant, c'est trop moche avant. Nous, on est modernes. On ringardise tout, la gauche, la droite et les écolos.
Et c'est quoi alors?
Le recyclage.
Il y a rien de nouveau là-dedans.
Mais si, on est différents, je te dis, nous. On n'a pas besoin d'être en rayon dans le Larzac avec une moustache ridicule au milieu des chèvres qui puent pour faire un compost ridicule.
Mais alors quoi ?
Ouais, nous, on marche. C'est trop cool. Et en marchant, on recycle.
Mais quoi ?
C'est évident, enfin. Les vieilles idées de merde, les vieux cons de droite, les vieux cons de gauche, et hop, ça devient du neuf. Elle est pas belle, la vie avec Manu ?
Pour ceux qui ne l'avaient pas vu venir. Alors, on continue et on termine sur Macron avec une petite revisitation par Patrick. Reprise. Il va nous revisiter l'hymne national, et oui, il va nous scander la macronaise.
À la Gainsbourg, n'est-ce pas? Non, laissons Gainsbourg en paix. Allons, enfants de l'apathie, le jour de paye est arrivé. Aujourd'hui, grâce à l'inertie, vous allez, nous allons payer. Entendez-vous dans nos campagnes mugir les placides bestiaux, bœufs, cochons, truies, vaches et veaux, gorgés de cet ennui qui les gagne? Aux larmes, citoyens, pleurez, filles et garçons, Macron, Macron, ton fric est mûr pour noyer nos sillons. Allons, enfants de nos partis, les jours de gloire sont arrivés. Voyez combien tous on nous unit pour moissonner et pour récolter. Voyez comme après la campagne, nos divisions sont apaisées. Français, songez à votre épargne et vos efforts, faut pas les épargner. À vos gorges, citoyens, criez, filles et garçons, Macron, Macron, ton fric, c'est sûr, il creuse nos micro-sillons. Amour sacré de la bourse pour la vie, conduit désormais nos ardeurs. Profit, profit, ô profit chéri, à qui profitent tes valeurs? Le capital est notre gloire, la capitale et nos provinces acclament ton nouveau pouvoir. Tes opposants, eh bien, qu'on les évince. Aux burnes, citoyens, c'est le jour des érections. Macron, Macron, ton fric impur n'emplira pas nos poumons. Poil le con.
J'ai peur du latrine pour...
Après ça, on va parler d'argent, enfin d'argent trop cher. Téléphone.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Alors on va remonter le temps un petit peu pour parler de ce qui nous attend si nous votons mal, c'est-à-dire si Macron peut appliquer tout ce qu'il a en tête. Et pour bien comprendre le Macron, on peut peut-être faire parler... de Gérard Filoche qui nous parlait de la loi Macron. Alors la Macron est devenue par la suite la loi M. Khomri, mais ce 21 janvier 2015, Gérard Filoche était au micro de l'émission Là-bas si j'y suis et il parlait et faisait pleurer sur notre avenir et on verra après si cet avenir a eu lieu.
C'est la pire loi que la gauche puisse proposer aujourd'hui, en tout cas depuis 2012. 106 articles, 19 ordonnances qui vont suivre. Le travail le dimanche, ça c'est ce qui est le plus connu. Mais il y a aussi le travail de nuit, jusqu'à 23h59, en soirée, comme ils disent. Il y a la facilité de licenciement. C'est-à-dire, il y a au moins 4 mesures qui vont faire que même les gens qui sont licenciateurs ne pourront pas obtenir d'indemnité ni être réintégrés. Vous avez la case de l'inspection du travail, la suppression du droit pénal du travail. L'insécurisation des élus du personnel dans les entreprises. Vous avez la fin de la médecine du travail. Vous avez la casse des prud'hommes. Et en filigrane, on verra après dans les ordonnances, peut-être la fin des CHSCT. Et finalement, le recul le plus spectaculaire du droit du travail qu'on pourra avoir eu depuis... le Conseil national de la résistance et la fin de la Seconde Guerre mondiale. On nous a présenté ça comme une loi d'avenir, c'est une loi du 19e siècle. Il suffit d'écouter Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Réussissez, enrichissez-vous ». Et après, aux jeunes, il dit « Ayez envie de devenir des milliardaires ». Et après, il leur fait des autocars pour ceux qui n'auront pas assez de sous pour prendre le TGV. Et ensuite, il dérégule à peu près tout. Là où il y avait des notaires, on pouvait critiquer, mais on pouvait imaginer que ça puisse devenir un service public. Non, là, il va livrer ça aux firmes juridiques anglo-saxonnes. Ça sera plus cher et sûrement plus corrompu. Il va, c'est un phénomène de low cost pour les taxis. La société Uber va pouvoir remplacer la G7 avec des gens qui seront même pas salariés. Et en général, c'est la dérégulation. Alors, pourtant, nous, on le sait. Quand on dérégule, ça augmente le chômage. Ce qui permet de lutter contre le chômage, c'est la loi et la régulation. Il n'y a pas d'exemple contraire depuis que il y a une augmentation des facilités de licenciement. Le chômage a toujours, toujours augmenté. Et cette loi Macron va être une loi pour le chômage. Ça va être une loi contre les salariés. Ça va être une loi rétrograde à 100%. Il n'y a pas encore de conscience suffisante parce qu'elle est présentée de façon compliquée. Je vais vous donner un exemple. Il y a un article technique, il a même fallu que je le lise deux fois avant de comprendre, qui disait on change l'article 2064 du Code civil, on va enlever une suppression dedans. Bon, tout le monde n'avait pas allé voir la suppression de l'article 2064 du Code civil. C'est simple. C'est le petit alinéa qui dit que le contrat de travail n'est pas un contrat ordinaire de droit civil. Donc il peut devenir un contrat ordinaire de droit civil. Alors, les gens vont se dire qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous passez un contrat de gré à gré avec votre employeur qui peut ne pas relever des prud'hommes ni du contrat de travail.
C'est même l'abolition, finalement, du droit du travail.
Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et évidemment, c'est une brèche. Ouais. Mais l'utilisation et la généralisation de cette offensive, je vous donne un exemple, c'est où les chauffeurs de taxi nouveaux, là, comment on appelle ça, VTC, chauffeurs tourisme. Bah, ils se mettent à leur compte, ils n'ont pas besoin d'être formés, ils n'ont pas besoin de passer un contrat, on leur commande une course. Vous avez même un feuilleton à Londres maintenant sur les télés qui raconte ça. Le gars, il est au service de la mafia, il a un contrat zéro heure, et quand le mafieux l'appelle, il arrive. Là, ça sera la société Uber. Hein, une nuit, il fera une course à 4 euros parce que il n'y a pas de compétition, il n'y a personne. Et puis, bah, vous allez payer 250 euros quand vous revenez de la fête au jour de l'an, comme ça a été le 1er janvier dernier. Et Uber fera du low cost, des variations de prix, il déterminera les prix centralement, il enverra ses hommes non salariés partout où ils voudront, et vous aurez une casse de tout un secteur. Mais vous pourrez avoir ça dans le nettoyage. Vous pourrez avoir ça pour les femmes de ménage. Vous pourrez avoir ça pour les profs qui donnent des cours le soir, ça existe déjà en partie d'ailleurs, et qui aident au devoir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une casse de petit à petit de centaines de milliers d'emplois qui ne relèvent plus du contrat de travail, donc il n'y aura plus de cotisations sociales, ça fera des rentrées en moins, qui relèveront d'un contrat civil, qui ne redonneront pas quand il y a un conflit au prud'homme et qui seront tranchés par un juge de paix ordinaire. Alors c'est une petite brèche, les gens. Pourquoi quelqu'un qui se prétend de gauche, qui est dans un gouvernement de gauche, ose-t-il faire ça? Et pourquoi l'ensemble de la société et le syndicat ne sont-ils pas vent debout? S'il y avait le début d'une loi comme ça, écoutez-moi bien, qui soit mise en place dans d'autres circonstances, on serait tous en manifestation. Permettez-moi de vous dire que ces manifestations méritent plus de 3 à 4 millions de personnes. Ce qui se passe est grave. Alors il faut l'expliquer, parce que 106 articles, les gens vont pas se rendre compte du jour au lendemain. On leur dit le dimanche, les gens vont être volontaires. Mais il y a personne qui est volontaire. Essayez de travailler le dimanche si votre patron veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. C'est pas vous qui décidez. Et ensuite on dit oui, mais ils vont avoir un meilleur salaire. Mais c'est faux. Ce sont des femmes pauvres et précaires et des étudiants désargentés qui sont obligés de travailler le dimanche. Et la loi, écoutez-moi bien parce que il y a du manchon officiel. La loi ne prévoit aucune majoration de salaire. Alors les gens se laissent parfois avoir parce qu'ils disent « la loi prévoit une négociation pour une majoration de salaire ». Mais ça renvoie au bon vouloir du patron. Et le patron, il dira, parce que vous savez que le chiffre d'affaires pour les magasins ouverts le dimanche, il est plus bas que les autres jours. Ce qui est de toute façon en plus est acheté le dimanche ne l'est pas le lundi. Et un emploi précaire créé le dimanche n'est plus là le lundi. Ça ne créera pas d'emploi. Ça ne fera que de supprimer des emplois chez les petits commerçants. La DARES a calculé, c'est plus de 30 000 emplois en main. C'est une loi de chômage le dimanche. Tout ce qu'on vous dit sur ça créera du boulot, de la affaire, c'est faux.
Et donc, ni les salariés, ni les usagers n'y ont intérêt. De toute façon, les magasins seront vides le dimanche au bout de quelques semaines, quand tout sera ouvert. Il faudra payer de l'électricité, du gardiennage et des frais pour que ça fonctionne. Quel est le but? C'est un but idéologique et pas économique. Le but, c'est de casser la semaine de travail. Le but, c'est de casser la durée légale du travail. C'est la même chose pour le travail en soirée. Il y a besoin d'acheter du parfum en soirée sur les Champs-Élysées. Mais à qui on va faire croire ça? Il y a des Chinois embusqués qui s'attendent là que ça ouvre et ils attendent que ce soit 21h ou 22h. Ils vont acheter subitement leur parfum et quand il n'y a pas le parfum, ils sont fâchés et ils appellent tout de suite Laurent Fabius pour dire « Mais comment nous ne sommes pas bien traités sur les Champs-Élysées pour acheter du parfum le soir? On veut absolument des femmes esclaves qui viennent d'Aubervilliers et qui restent jusqu'à 23h59 et qui rentreront chez elles à 2h du matin pour acheter du parfum. Mais enfin, qui croit ça? Les touristes chinois, ils ont des tours opérateurs qui prévoient sur 4 ou 5 jours l'après-midi commerce, l'après-midi achat, c'est jamais le soir. Et deuxièmement, si les Chinois vous mettez à acheter du parfum, maintenant ils ont une bonne solution, c'est de l'acheter dans l'aéroport, en free tax, à Blagnac, parce que c'est un aéroport qui est devenu chinois et que Macron a vendu. Et donc il y a une absurdité à nous faire croire qu'il y aurait quelque chose de plus le dimanche. C'est purement idéologique. Et ce gars-là, je sais pas d'où il vient, ou plutôt je sais trop bien. Il n'a jamais compris ce que c'était un syndicat. Il n'a jamais bossé dans une cantine. Il n'a jamais bossé dans un chantier. Il sait pas ce que c'est que de faire. C'est un patron qui vous presse pour faire plus de 48 heures par semaine. Il dérégule. Mais les dérégulations, ça fera qu'il y aura moins d'embauches. Si les gens travaillent deux fois plus, ça sera à la place de ceux qui n'ont pas de boulot. Toute dérégulation se traduit par un drame social. Seule la régulation et la loi est un signe de civilisation et de progrès humain. Et si vous régulez, vous partagez le travail. Et il faut partager le travail, il faut aller vers 30 heures et pas remettre en cause les 35 heures quand on a 6 millions de chômeurs. Et Macron est un ovni qui vient, qui comprend pas la société, qui sait rien, il est plongé avec des projets du 19e siècle et avec ceux du MEDEF pour arriver aujourd'hui à nous imposer une dérégulation sur tout. Alors, j'ai pas tout dit, hein, parce que même sur la lutte pour le travail illégal, ça ira mal. Parce qu'il y aura plus de droit pénal du travail. On n'enverra plus un patron au tribunal entre deux délinquants parce qu'il aura du travail dissimulé. Ça sera maintenant l'administration qui le convoquera, qui lui dira, écoutez, vous n'êtes pas en règle. Voulez-vous vous mettre en règle? Si vous avez un délai, et puis si ça se passe pas, on vous interdira pendant un mois maximum. Et puis, selon les circonstances, on négociera avec vous, ça sera du plaidé coupable. Il n'y a plus de droit pénal du travail. Quand un patron fait une faute inexcusable, quand il prend du travail au noir, ça sera du négocié avec l'administration. Et donc avec des gens qui, politiquement, auront l'oreille, parce que comme ce ne seront plus les inspecteurs du travail qui le feront, mais les directeurs anciens du travail qui s'appellent direct maintenant, eh bien on parlera entre gens du beau monde, entre sous-préfets et puis employeurs. Les prud'hommes, c'est pareil, ils ont supprimé les élections prud'hommes, mais vous rendez compte? Supprimer les élections prud'hommes. Ils ont dit que c'est parce qu'il y avait 34,5% de votants. Si on se met à supprimer toutes les élections qui ont 34,5% de votants en République, il va plus y en avoir beaucoup, hein. Et on dit que ça coûte trop cher, ça coûte 4,77 € par voix. C'est 4,80 € pour l'ensemble des autres scrutins. Ils ont pas supprimé les élections aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture. Et là, donc en supprimant les élections aux prud'hommes, vous savez ce qu'ils font? C'est la seule élection où les immigrés pouvaient voter. Dans une élection nationale, où ils avaient le droit d'élire les juges de la République. Et là, on supprime cette seule chose. Alors ceux qui font ça, puis qui me disent après, je suis pour le droit de vote des étrangers, je les crois pas. Parce qu'ils avaient quelque chose à valoriser, à mettre en évidence, et ils l'enlèvent. Vous voulez que je continue? Non, j'ai plus le temps, hein, c'est ça.
Merci, Gérard Filoche.
Merci.
Merci.
Alors on vient d'écouter Gérard Filoche qui parlait donc le 21 janvier 2015 dans l'émission Là-bas si j'y suis, et il était plein de verve pour nous démontrer ce qui s'appelait à l'époque la loi Macron et ce qui s'appelait par la suite la loi El Khomri.
Et c'est assez symbolique par rapport à notre nouveau maître, un petit peu bonapartiste, c'est que le 21 janvier c'est la date de la décapitation de Louis XVI.
Bon, c'est un pur hasard quand même, mais ce qui est plus important, c'est de se rendre compte bien plus quelques temps après le passage de cette loi qui, comme vous le savez, a été promulguée, est décrétée. Elle a eu des impacts, et un des impacts qui peut être lu dans un article que j'ai trouvé que sur France Inter et sur le Huffington Post, qui sont les deux seuls journaux où j'ai trouvé l'analyse de ça, c'est le titre de France Inter du 28 avril est très net. La loi Macron devait simplifier les prud'hommes, elle les a rendus inaccessibles. Pourquoi ? Parce que la petite modification, enfin il y a plusieurs modifications des prud'hommes dans cette loi, mais la principale était le fait de pouvoir, d'exiger de celui qui dépose un dossier au prud'homme de donner un dossier complet. C'est plus simplement faire acte de vouloir déposer un dossier, puis par la suite progressivement d'amener les différentes morceaux composant son dossier. Il faut maintenant un dossier complet, pièce justificative pour lancer la procédure. Le but était clair. Réduire les délais d'attente, car une bonne partie des appels et des re-appels en prud'homme sont dus à une pièce manquante, des parfois incomplets, qui permettaient de repousser autant le traitement des affaires. Et c'est vrai que c'est un problème démocratique, et ça le reste. D'ailleurs, encore pour tous les appels, où l'engorgement des prud'hommes fait que les dossiers mettent des années à être traités. Mais il y a un hic qui a été d'ailleurs relevé par la CFDT. La CFDT était dans la rue pour défendre la loi, ou je sais pas quoi, là. Je pense qu'il était du mauvais côté, mais là aujourd'hui, comme toujours, la CFDT du Conseil des Prud'hommes de Paris fait remarquer que cette petite note de service d'Emmanuel Macron a fait chuter de 40% le nombre de saisines devant les conseils de Lyon et de Paris.
Et dans le programme de Macron, il y a le fait de diminuer donc les indemnités aux prud'hommes avec des indemnités forfaitaires qui seraient bien plus basses que les indemnités moyennes obtenues par les plaignants.
C'est ce que Philoge a nous expliqué pendant 10 minutes.
Simplifions.
Alors cette chute a de quoi inquiéter tous les syndicats. Ils affirment que les salariés sont découragés, voire désemparés face à ces démarches. Il y a un trop grand nombre de salariés qui renoncent aujourd'hui à faire valoir leurs droits d'après la CFDT.
Sinon, ils abuseraient, sinon ils n'arrêteraient pas de déposer des dossiers pour le plaisir.
Justement, c'est exactement ce que dit un autre journal qui en parle, en fait, j'étais voisin, il y a aussi l'Express, plus exactement l'entreprise qui appartient à l'Express, qui le 11 mai dernier, titre un autre titre totalement différent. Comment la loi Macron a bousculé les prud'hommes. On sent un autre vocabulaire quand même. C'est d'ailleurs, eux ils citent une source un peu plus fiable que la CFDT peut-être, c'est un récent rapport remis au garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas qui permet de parler du chamboulement vécu depuis un an par les acteurs des prud'hommes, et là voir du côté de ceux qui reçoivent les dossiers puis de ceux qui doivent les traiter. Alors cette baisse des saisines a été très nette, elle a été constatée donc de tous les bords. Alors elle peut être due pas forcément que aux lois Macron, mais aussi à un développement progressif de la rupture conventionnelle. Quand on sait qu'on va perdre, on va plutôt essayer de négocier à l'avance. Et
il y a aussi
recours.
Un autre élément, c'est la moralisation entamée par le MEDEF. Faut pas oublier, Parizeau a lancé ça, et si elle est si proche de Macron, c'est parce qu'elle est très morale.
Alors dans cette moralisation de rupture conventionnelle, il est noté partout que la seule façon pour un salarié aujourd'hui de pouvoir voir son dossier arriver à terme, c'est de prendre un avocat, dès le début, avant même de déposer son dossier, que ce soit l'avocat qui arrive à remplir le dossier. Et c'est carrément un nouveau marché pour les avocats qui s'ouvrent à l'américaine. Il n'y a entre autres plus aujourd'hui de coopération personnelle des parties, ce n'est plus exigé. Il faut d'abord passer par un premier bureau qui va dire si votre dossier va être traité rapidement ou va être traité face à du personnel requis. Et s'il n'y a pas d'avocat pour ça, je crois que ça va être un petit peu compliqué pour eux. D'ailleurs, la formation de la magistrature commence à former des avocats pour ces techniques professionnelles. Comme le dit l'article donc de l'entreprise issu de l'Express, les prud'hommes bougent, mais le temps de l'efficience est encore loin. Par contre, le temps de la fin du droit du travail, c'est en marche. Alors, on va écouter justement.
Il y avait un film, c'est 7 morts par ordonnance. Je crois que ça résume l'été qui nous attend avec Macron.
Voilà. Alors, pour résister à ça, on va parler un peu de solidarité. Et c'est M qui nous enchante un peu.
Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. I don't love a new beat, I mean, I know the world. What is that up for? How come we don't know like me? What the hell they fighting for? Not a man with the blame in his
Bonsoir, Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Lors de l'agenda bientôt, nous vous parlerons d'une diffusion du film La Sociale de Gilles Perret qui nous raconte l'histoire de la Sécu et de la Sécu. C'est une belle histoire. Alors c'est aussi un très beau film, mais là on va pas vous en parler aujourd'hui, on en parlera une autre fois du film proprement dit. On va parler un petit peu plus du fond politique qui est derrière la Sécu, en repartant d'un dossier du Monde diplomatique de d'avril-mai, par Martine Bullard, qui essayait de prendre un peu de recul, en partant quand même d'un fait assez étrange, c'est que Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique de l'État de Paris, qui est ancien commissaire du gouvernement Sarkozy, et puis aussi Monsieur Didier Tabuteau, responsable de la chaîne santé à Sciences Po, on les targue pas d'extrême gauche quand même, hein, on peut pas, ont tous les deux, dans une tribune retentissante, réclamer une prise en charge des soins de santé à 100% au travers d'une fusion de la sécurité sociale et de l'ensemble des complémentaires santé. C'est à de quand même de janvier, si on ne l'avait pas vu passer. Alors, c'est pas une idée totalement nouvelle, d'ailleurs, évidemment, vu que beaucoup de gens à la gauche en appellent de ses voeux. Alors, rappelons le pourquoi. Bah, c'est pour actuellement, le remboursement se fait en deux étapes. D'abord, une demande qui est envoyée à la sécurité sociale, qui prend 90% des dépenses pour tous les malades atteints d'affections longue durée, mais à peine 50% pour les visites chez le médecin ou l'achat des médicaments, voire même un tiers seulement des soins dentaires et pratiquement rien pour les lunettes. Donc tout ce dossier part ensuite vers les complémentaires santé, qui aujourd'hui ont deux grandes catégories, les mutuelles, et puis de l'autre, les assurances, hein, qui n'ont pas vraiment le même histoire, ça c'est sûr, mais pas non plus le même fonctionnement, et qui remboursent en fonction du contrat repris. Par exemple, ça représente 16% des médicaments qui, à la fin de cette chaîne, restent à la charge en moyenne des patients. Donc c'est pas une chaîne parfaite, ça dépend des médicaments, mais c'est en l'occurrence. Donc c'est un système qui est à bout de souffle, on en est bien triste là-dessus. 21 à 36% des Français, suivant les analyses, renoncent à des soins pour des raisons financières, et derrière ces statistiques, il se cache évidemment une misère humaine, des enfants sans lunettes, des dents mal soignées, et peut-être d'autres choses plus graves. Alors, si on parle du programme d'Emmanuel Macron, il prévoit encore une baisse des dépenses de l'assurance maladie de 15 milliards environ, une phrase qu'il a professée dans ses projets, on ne peut avoir de dépenses de santé qui augmentent trois fois plus vite que la création de richesses. Mais enfin, il est guère gêné quand même, hein, que la distribution des dividendes des entreprises augmente-t-elle dix fois plus vite que les richesses produites. Hein, c'est quand même plus que contradictoire. Alors, le choix en plus de bascule de la protection sociale progressive de la Sécu vers les complémentaires, c'est pas neutre idéologiquement du tout. D'ailleurs, ni médicalement et surtout pas socialement, mais c'est pas neutre économiquement. Sur 100 euros de cotisation reçue par les complémentaires, il y en a quand même de 15 à 19 euros qui partent en frais de gestion et de pub, contre seulement de 4 à 5% de fonctionnement pour la Sécu. Il n'y a aucune rationalité économique dans le fait d'avoir ces deux systèmes parallèles de remboursement. Un guichet public unique rembourserait et permettrait de gagner, d'après certaines estimations de Monsieur Noam Ambrou-Rouzi, spécialiste de la santé et conseiller de Mélenchon. On pourrait gagner 7 milliards d'euros. Hein. Il faut quand même penser que ce fameux trou de la Sécu qu'on nous rabâche tout le temps, lui, est seulement de 7 milliards. Hein. Ça simplifierait aussi la vie à tout le monde. Hein. On envoie son dossier à la Sécu, et puis même les médecins, si vous en connaissez certains, qui sont toujours en train de dire « mais c'est très compliqué de faire tout ce... on a du mal à trouver toutes les complémentaires ». Ils ont en plus maintenant l'obligation de trouver systématiquement la complémentaire eux-mêmes. Donc le tiers payant pourrait fonctionner, ça simplifierait la vie de beaucoup de monde. Surtout que ces complémentaires s'avèrent être très inégalitaires. Alors évidemment, maintenant la loi oblige à avoir une complémentaire, ce qui fait que 95% des gens en ont désormais, mais ce nombre ne fait pas grand-chose à l'affaire, hein, parce qu'elle dépend des différences de cotisations sociales. Elle varie en fonction de l'âge, elle est en fonction évidemment des revenus, mais aussi des maladies. Hein. C'est-à-dire que tout ça dépend de type de contrat, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Autrement dit, dans une complémentaire, plus on verse, plus on est remboursé. Alors que le vrai principe originel de 45 de la Sécu, c'est que chacun paye selon son revenu, mais reçoit selon ses besoins. C'était vraiment l'idée à l'origine, si vous vous rappelez, en 45, hein, la Sécu est née d'une volonté du Comité National de la Résistance. Donc, je dis ça pour ceux qui sont allés voir ce très beau film, La Sociale, de Gilles Perret. C'est un plan complet qui devait normalement rembourser intégralement les gens. Alors, il y a eu des conflits, cette coupure sécu mutuelle est très compliquée, le patronat s'y opposait, les mutualités, qui étaient les premières caisses de défense des ouvriers au début du siècle, elles aussi existaient, ne voulaient pas disparaître. Bon, ça, c'est un débat complexe. Et ce compromis a été néanmoins, dès 45, une victoire des assurances. Vu que la sécu a très bien fonctionné, cette victoire n'a jamais été vraiment présente. Mais alors là, elle s'impose aujourd'hui, avec tout ce que je viens de dire sur la progression continue du poids de remboursement des mutuelles dans notre vie de santé, pour ceux qui peuvent se le permettre. Et à côté de ça, une baisse continue des prestations de la sécu. Voilà, on va pas rentrer dans tous les chiffres que malheureusement on connaît. On sait que il y a plus finalement que l'hôpital qui est capable de prendre n'importe qui à rembourser à 100% quand on se présente. Il faut quand même rappeler aussi qu'une bonne part des chutes de la sécu vient de la baisse des cotisations sociales provenant des entreprises. Rappelons aussi que Hollande et Macron, avec leur crédit impôt compétitivité emploi, fait 40 milliards nouveaux d'exonération. Ils ont encore...
Et que Macron veut continuer.
Et que Macron veut continuer en augmentant la CSG qui, elle, touche tout le monde et pas toujours...
Et que LR trouve que Macron n'ira pas assez loin.
Et voilà, donc tout ce...
Mais
tout
que Macron va leur faire plaisir.
Toute cette logique du mutuel qui s'impose, c'est une logique du privé qui s'impose. Et on peut arriver à un système à 3 ou 4 vitesses. Hein. Si on parle à 4 vitesses, c'est les gros risques par la sécu. Hein. Deuxième cran, pour les plus pauvres, quand même, un peu de charité, couverture maladie universelle. Hein,
puis, car l'hôpital ne se moque pas de la charité.
Puis une couverture plus ou moins importante par complémentaire. Et puis pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir une assurance santé de luxe, eh ben ils l'auront. Hein, donc 4 vitesses pour la base et pour le reste. Alors il y a différentes propositions derrière cette santé universelle. Le guichet unique, on le voit, c'est des économies. Pour les assurés, c'est aussi permettre de payer moins pour les plus pauvres et de recevoir plus pour ceux qui en ont bénéficié. Il faudrait par contre un peu plus de démocratie là-dedans pour savoir qu'est-ce qu'il faut rembourser, qu'est-ce qu'il faut traiter. Un débat national pourrait avoir lieu, mais justement dans les années 80, on a vu disparaître progressivement la participation des syndicats peut-être, mais pas non plus la naissance de la société publique dans la gestion de la sécu qui est entièrement gérée par l'État depuis une loi de 2004. Revenir à une vision démocratique de la sécu, c'est peut-être demain réduire les coûts pour une meilleure santé choisie par nous. Votez bien. Votez
là le 11 juin et le 18 juin.
Oui.
Soyez présents à l'appel.
Alors, on avait fait un tout petit agenda. On y va à toute vitesse, Gaël.
Oui, le 13 mai, c'est le Forum Social Pierre 95. C'est à Pierrelaye. Ça rassemble toute la gauche radicale locale. C'est un festival qui commence à 11h avec des débats sur les circuits courts dans l'alimentaire mais aussi dans le culturel. Une projection du film Qui a tué Ali Ziri et puis buvette, guinguette et un concert à 20h.
Alors demain, samedi 13 à 15h à Châtelet, il y a un rassemblement qui est organisé par le collectif Non au JO. 5 milliards d'euros de dépassement moyenne, enfin prévu plutôt pour les JO à Paris. Et comme il y a le CIO qui vient visiter Paris pour savoir si c'est le bon endroit pour faire les JO, c'est l'occasion de rejoindre Frédéric Vial, qui est donc l'idole de Gaël, pour, enfin plutôt contre les JO.
Alors samedi 13 mai, si vous êtes enseignant, surtout du primaire, et que vous connaissez Céline Alvarez, vous pourrez aussi aller écouter Laurence de Coq, qui va vous parler de Céline Alvarez et le business pédagogique. Ce sera au centre CICP rue Voltaire à Paris, à 18h le samedi 13 mai. Ça va avec le collectif Questions de classe. On va essayer de démontrer dans cet exposé le business pédagogique et le phénomène Céline Alvarez pour dire à quel point c'est un petit peu n'importe quoi.
Alors, le 13 mai, toujours, compagnie Jolimôme à Massy-Palaiso, sous le kiosque, avec le spectacle Des patates et des roses à 17h.
Samedi 13 mai à 20h. Non ?
Non, c'est Gaël. Oui, vas-y.
À 20h, Retour à Forbach, c'est le documentaire de Régis Sauder. C'est une soirée débat. La projection est suivie d'un débat donc avec Bernard Schmitt de l'association Visa et Jérémy Potier-Grossman de l'équipe du film.
Dimanche 14 mai, 17h, le cabaret de la crise, une pièce de Louis Séry par la compagnie Canopée en partenariat avec les économistes atterrés. C'est au lieu dit 6 rue Sorbier dans le 20e à 17h.
projection en avant-première, c'est dimanche 14 à 21h à Saint-Denis, 31 boulevard Marcel Samba. Projection en avant-première de Attiéké All Star, donc le collectif Attiéké qui a repris un bâtiment de la sécurité sociale qui avait été abandonné pour en faire notamment des logements d'urgence, va présenter, enfin ça va être l'occasion de voir un documentaire là-dessus.
Et le 24 mai, Alex, à Bruxelles.
24 mai à Bruxelles, rassemblement contre Trump et surtout contre l'OTAN à 17h devant la gare Bruxelles-Nord sur le thème « Trump is not welcome ».
Et le 20 mai,
ça concerne toute l'Europe.
Et le 20 mai à 15h à Paris, c'est la journée internationale de lutte des solidarités des travailleurs et des travailleuses. N'oubliez pas de rejoindre les différents appels et les lieux sont pas encore définis, mais tout est en place. Alors, ce qui termine notre émission, on remercie tous les chroniqueurs. Jean-Marc, la macronaise de Patrick et son intervention... qui nous a laissé des traces, Alex et ses réponses, Gaël et sa chronique, et en technique, Ludo et puis Jean-Yves qui a tenu tout le crash, tout le matériel, tout le matos, tout. Alors on finit par écouter la chanson de tous ceux qui veulent devenir députés, bien sûr, et président de la République, c'est tout le monde veut être un 4.